Chapitre 44. L'escabeau en bois ne m'inspire pas confiance, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Tant pis s'il n'est pas assez haut, il devra faire l'affaire. Je le place sous la trappe ménagée dans le plafond de l'étage, curieuse d'explorer le dernier espace de la cabane aux écureuils qui m'est encore inconnu. Je teste ma lampe torche, elle fonctionne. Avec prudence, je grimpe une à une les marches qui grincent. Parvenu au sommet dans un équilibre précaire, je soulève le panneau permettant d'accéder au comble. Je me prépare à exercer toute ma force. Mais contre toute attente, il se laisse manœuvrer sans la moindre résistance. Quand ça s'ouvre aussi facilement dans un film d'horreur, c'est toujours pour mieux vous attirer dans un traquenard. Je repousse le battant, qui m'échappe et retombe avec fracas en soulevant un nuage de particules. Bien que me hâtant de me protéger le nez dans mon coude, j'en respire quand même assez pour éternuer. Prenant appui sur le pourtour de l'ouverture, je me hisse à la force des bras. L'impulsion de mes pieds déséquilibre l'escabeau qui en profite pour basculer. « Bravo, Amandine ! Pour redescendre, tu seras bonne pour sauter !» Il fait nettement plus frais là-haut. Même s'ils sont étouffés, on perçoit les coups de vent. Il plane un parfum d'isolant légèrement humide. Je promène le faisceau de ma lampe sur les structures de la charpente. Les ombres s'étirent en se déplaçant, révélant au passage quelques splendides toiles d'araignée. Au fond, près du conduit de la cheminée, l'éclairage accroche une chaise haute d'enfant et une baignoire pour bébé en plastique. Derrière, dans la pénombre, je devine des piles de carton. Une épaisse couche de poussière recouvre le sol du grenier. Personne n'est monté ici depuis des années. La faible hauteur sous toit m'oblige à me déplacer tantôt accroupi, tantôt à quatre pattes, avec le ray de lumière qui valse alentour, projetant ma silhouette déformée sur les pentes. On dirait Quasimodo se faufilant dans les toitures de Notre-Dame. Les cartons abondent. Ils font tous à peu près la même taille, comme pour un déménagement. Je viens sans doute d'exhumer les affaires dont la mère de Raphaël s'était débarrassée, celles dont il se demandait où elles étaient passées. Des indications sont inscrites dessus au marqueur. Déco, cuisine, bricolage, quelques prénoms aussi. Je n'en identifie qu'un seul. En me contorsionnant, j'attrape l'une des caisses estampillées Christophe. Elle n'est pas bien lourde. Je la dépose devant mes genoux avant de caler ma lampe dans la fourche d'une poutre. La colle du ruban adhésif qui la scelle a séché depuis longtemps et je l'ôte sans effort. À l'instant où je soulève le couvercle, une bourrasque s'immisce dans la toiture et anime les plaques d'isolant qui se mettent à vibrer en émettant un ronflement grave tout autour de moi. Le râle d'un géant dont j'aurais troublé le repos. Suspendant mon geste, je tressaille. D'une voix qui se veut assurée, je me défends. « Tu m'as légué cette maison pour que nous partagions quelque chose ? C'est ce que je cherche à faire. » Le vent ne proteste pas. Je découvre des vêtements marqués de logos d'entreprise. Des sweats, des casquettes, quelques blousons, un sac à dos publicitaire. J'empoigne un autre carton. Celui-là pèse un peu plus lourd et teinte quand je le pose. Des souvenirs mélangés, coupes sportives, gadgets, mais aussi une coque de voilier taillée dans du bois. La fabrication de l'objet est bien trop approximative pour être l'œuvre d'un artisan. Je penche pour un bricolage d'enfant réalisé au couteau. La boîte suivante est beaucoup plus pesante, remplie de dossiers et de documentation technique concernant des machines industrielles dont je ne saisis pas toutes les fonctions. En poursuivant mon investigation, je mets au jour toutes sortes d'archives. Chaque fois que je pense être arrivée à la dernière caisse marquée au prénom de mon géniteur, j'en trouve une autre. Je suis maintenant cernée par ce qu'il a souhaité conserver. Je me demande parfois pourquoi. Les documents professionnels ne me renseignent en rien sur sa personnalité. La récolte est légèrement plus signifiante avec ses souvenirs, mais le portrait du bonhomme peine à s'esquisser. Les quelques pièces de puzzle que je glane sont loin de suffire à l'approcher. Je tombe sur des jouets. Pas réellement anciens, mais trop vieux pour être de la génération de Raphaël ou de sa sœur. Je reconnais quelques marques qui existent encore aujourd'hui, mais j'ignore comment on jouait à ces gros jeux électroniques dont les piles ont été retirées. La boîte suivante fait partie des plus lourdes. Pliée en deux, je la dégage avec difficulté, la fatigue commence à se faire sentir. Elle a été plus soigneusement fermée, mais le scotch n'a pas mieux vieilli. Des albums photos, des négatifs qui datent d'avant le numérique, quelques disques vinyles, des agendas. Cette fois, la pêche m'a l'air bonne. J'ai peut-être enfin une chance d'en apprendre davantage sur Christophe Bélanger. Ses carnets scolaires, quelques lettres. Je viens certainement d'exhumer ses archives les plus anciennes et les plus personnelles. Bingo Toto. Sous un classeur de collection de pièces de monnaie, je tombe sur 6 carnets. J'en feuillette un au hasard. Des dates et des faits suivis de réflexions et de commentaires. Étrange sensation. Il n'est plus de ce monde et je m'aventure pourtant dans ses plus intimes pensées. Je m'arrête sur un jour où, d'après mes calculs, il est même plus jeune que moi. Il est question d'une fête de famille qui ne s'est pas bien passée. Une altercation entre sa mère et son père qui l'a, à l'évidence, secoué. L'écriture est vive, les notes concises, les lettres un peu moins bien tracées, sans doute sous le coup de l'émotion. Les propos sont tranchés. Il semble prendre le parti de son père sans que la cause de l'accrochage soit précisée. Je referme brutalement le carnet, réalisant tout à coup qu'il est très possible que, quelque part dans ces pages, il soit question de ma mère et de leur liaison. Un nouveau frisson me traverse. Je ne sais pas si je préfère affronter ça ou le tueur en série des films d'horreur. Le vent se remet à siffler dans le grenier. « Ça suffit, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle je me retrouve ? » Ai-je envie de savoir ? Faut-il que je cherche ? Parcourir ces pages ne risque-t-il pas simplement de raviver un feu qui commence seulement à se calmer ? Le vent ne faiblit pas. Je suis prête à lui résister, à lui répondre, à me boucher les oreilles pour ne plus entendre ce qu'il essaie de me souffler. Mais ce n'est plus le vent. C'est le moteur d'une voiture qui ralentit devant la maison. Je consulte ma montre. Mince, j'ai pas vu le temps passer. Nolan arrive avec sa copine pour le goûter. J'abandonne tout et me précipite vers la trappe. Scrogneugneux, comment vais-je redescendre ?